marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Le pouvoir d'achat, la consommation.
Le consommateur s'essouffle de plus en plus à suivre le bœuf. Non seulement les prix montent, mais le Français qui, il y a 30 ans, mangeait annuellement 32 kilos de ce ruminant, en dévore aujourd'hui le double. De même, il dépense deux fois plus pour s'habiller, quatre fois plus pour se déplacer, trois fois plus pour se loger confortablement. Depuis 30 ans, il fume la même quantité de cigarettes, 50 milliards d'unités par an. L'individu né coiffé pouvait acheter avec 1 million 15 000 chapeaux, aujourd'hui 30 000. Même proportion pour les articles ménagers. Mais le pouvoir d'achat a beau avoir doublé, l'argent a toujours la même fâcheuse tendance à s'envoler.
1963, actualité cinématographique. La mémoire est restée de deux grandes périodes d'élargissement de la consommation. Celle des décennies qui ont précédé 1914 et qu'on a nommée la Belle Époque. Et celle, pas aussi lointaine, des Trente Glorieuses. Nos mères dirent alors adieu aux fers à repasser en fonte, aux cuisinières à charbon et pour beaucoup d'entre elles à l'austérité, à la frugalité et même à la prévoyance. Le contraste est fort avec l'époque présente. L'INSEE, quand il affiche en série ses indices des prix, note pour 1997-2007 une progression annuelle du pouvoir d'achat faible, inférieur à 2%. Et pour la décennie suivante, dont on se demande si on sortira jamais, une croissance nulle. D'autres spécialistes ajoutent que la pente serait plus accentuée encore si on prenait mieux en compte la part grandissante de l'immobilier dans le budget des ménages. L'INSEE fournit des données froides, même s'il les affine en fonction des niveaux de revenus et des territoires. L'observation de la consommation doit partir aussi des objets et de leurs points de vente entre lesquels le consommateur fait des choix. Un consommateur qui n'est pas un être abstrait, rationnel, qu'on peut aisément traduire en chiffres. Il a évidemment des pratiques différenciées selon les groupes sociaux où il se retrouve, mais dans l'hypothèse largement démentie, où les catégories les plus pauvres rattraperaient leur retard, elles n'adopteraient pas nécessairement les modes de consommation de ceux qui sont aujourd'hui les mieux dotés. La segmentation grandissante du pays, l'individualisation des comportements, sont dans ce domaine, comme dans d'autres, la marque de l'époque.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Jean-Claude Domas.
Bonjour Jean Lebrun.
Vaste projet que vous avez entrepris il y a longtemps et que vous avez fini par mener à terme, dont on ne présentera ici que quelques éléments, une histoire de la consommation depuis 1840 et qui paraît enfin chez Flammarion. Bon, on ne va pas remonter aussi haut dans le temps. Vous distinguez cinq périodes, on laissera les lecteurs les découvrir. Nous, on va s'intéresser aux deux époques que je mettais en avant dans le chapeau. Les deux époques dont nous avons mémoire dans notre conversation nationale, s'il y en a encore une. Je mettais en cause l'INSEE. Alors l'INSEE calcule par unité de consommation, c'est-à-dire que quand vous avez une famille composée de deux adultes et d'un enfant de 8 ans, ça fait 1 plus 0,5 plus 0,3, ça fait 1,8 unités de consommation. C'est un exemple de calcul mathématique. Vous procédez tout à fait autrement, avec d'autres sources d'ailleurs que mathématiques.
Oui, c'est-à-dire que je pars de sources historiques et par exemple, pour bien donner les choses à comprendre, il suffit de se rappeler que même encore aujourd'hui, les conseillers sociaux qui ont pour but d'aider les ménages surendettés à retrouver en quelque sorte le droit chemin, essayent d'imposer à ces ménages des règles qui sont inspirées par la gestion d'un budget bourgeois. Or, tous les ménages n'organisent pas leurs dépenses de la même manière et ne gèrent pas leur budget de la même façon. C'est ainsi, par exemple, qu'alors qu'on essaye de leur demander de répartir les sommes disponibles de manière égale entre tous les membres du foyer, ils privilégient systématiquement les enfants. Et entre le père et la mère, toujours le père, puisque c'est lui qui travaille et qui rapporte l'argent au foyer.
Vous parlez des ménages modestes, là.
Des ménages modestes, ceux qui sont surendettés. De la même manière, on leur recommande, lorsqu'il reste un peu d'argent à la fin du mois, de le placer à la caisse d'épargne. Ils ne le font jamais, se précipitent dans les grandes surfaces pour acheter des conserves et des produits d'hygiène, de manière à pouvoir faire des réserves.
C'est-à-dire que toutes les périodes qu'on va étudier, la première comme la deuxième, il faut y introduire, bien sûr, des différenciations, notamment selon les groupes sociaux. En même temps, pendant les 30 Glorieuses qui vont nous occuper, d'abord, il y a un vaste mouvement commun qui entraîne les uns et les autres. Je disais adieu les fers en fonte, adieu les cuisinières à charbon, adieu bientôt la vaisselle à la main, ce qu'on appelait dans l'Ouest, vous savez, l'échaudage.
Un sourire heureux, de la vaisselle étincelante, Peck est là.
Peck dégraisse instantanément toute la vaisselle et la rend nette et brillante. Il n'y a plus qu'à la rincer et vous verrez, elle sèche toute seule.
Ah, quel plaisir de laver la vaisselle, l'éponge en main et la joanne dans le cœur. Frotter, rincer les plats, les écuelles, les essuyer avec beaucoup d'ardeur.
Ça marche?
Ça marche. Tiens, passe-moi une tasse.
Tiens.
Oh!
Bah, v'là que je la casse. Oh, bah, v'là qui casse la tasse. Passe-moi une assiette.
Tiens.
Oh!
Oh, bah, lève-la en miettes. Oh. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment, toi?
Je sais pas, je suis pas dans mon assiette.
Vous avez reconnu Jean-Claude Thomas?
Roger-Pierre. Roger-Pierre et Jean Martigot. Ouais.
Bon, le lave-vaisselle, c'est le dernier grand équipement de l'électroménager avec lequel on se donne du bonheur. Parce que c'est une affaire de bonheur, de désir, que les besoins qui convergent vers l'objet. Vous insistez vous, sur l'objet, lave-vaisselle en dernier lieu, mais il y a eu le lave-linge et puis plein d'autres.
Oui, ce qui est important, c'est pendant la période qu'on appelle habituellement les Trente Glorieuses, les ménages remplacent toute une série d'objets traditionnels, le fer à repasser en fonte, la lessive en tôle, par des appareils ménagers qui sont mus à l'électricité. Et il suffit par exemple de donner l'exemple du réfrigérateur qui passe de les ménages qui en ont un se comptent encore sur les presque sur les doigts d'une main en 1954 puisque ça ne concerne que 7,5% des ménages français. Par contre en 1980 on en est à 95%. Donc il y a eu un effort d'aménagement, d'équipement considérable de la part des ménages, et cette mécanisation du travail ménager non seulement fait disparaître les objets traditionnels comme le fer à repasser en fonte, mais fait disparaître aussi toute une série de tâches qui sont considérées comme pénibles et rebutantes, porter par exemple le charbon ou le bois, laver le linge à la main, poncer les parquets avec à la main aussi. Toutes ces tâches-là sont très lourdes, elles sont le privilège, si j'ose dire, des femmes, et l'électroménager va permettre à la fois d'alléger les tâches ménagères, de réduire le temps qui y est consacré, et aussi de permettre également une meilleure répartition des tâches à l'intérieur
et
du
ménage. Et puis, vous n'osez pas le dire, d'offrir du bonheur en plus.
Alors, c'est pas que je n'ose pas le dire, c'est que c'est la conséquence en réalité. C'est-à-dire que pour la majorité des Français, accéder à ces nouveaux objets de consommation, c'est l'accès au bonheur. Et ou du moins au bien-être, et c'est un sentiment très largement répandu, que montrent aussi bien les sondages de l'époque que les souvenirs des contemporains. Par exemple, il suffit de penser au livre d'Annie Ernaux, Les Années, où elle évoque justement le changement de rapport que les Français ont avec les objets entre l'après-guerre et les années 70.
Alors, les objets parfaitement disposés dans la cuisine, immaculés, blanches, en formica, voire en matériaux plus luxueux, comme dans Les choses de Georges Perec. Alors évidemment, dans une émission un peu intellectuelle comme la nôtre, on ne peut pas ne pas citer Les choses que vous moquez parfois, prix Renaudot, 1963, de Georges Perec. Les personnages, c'est Jérôme et Sylvie.
Oui, c'est un couple de petits bourgeois qui sont, disons, à Bac plus 2.
Mais ils sont en voie d'ascension ou ils sont en recherche de distinction?
Non, ils sont en voie d'ascension parce qu'ils vont finir par accepter de prendre un poste de directeur d'agence à Bordeaux, et ils sont partis de pas grand-chose. Et en fait, on fait toujours il y a un malentendu sur l'interprétation de ce livre, puisqu'on le voit comme le livre de la société de consommation. Or, les deux héros ne rêvent absolument pas des objets de consommation les plus courants. Ils rêvent de luxe et ils se voient en bourgeois. Donc on est en fait dans un autre univers.
Et volupté dès le petit matin.
Il serait tôt. Ce serait le début d'une longue journée de mai. Il y aurait une cuisine vaste et claire, avec des carreaux bleus armoriés, trois assiettes de faïence décorées d'arabesques jaunes, à reflets métalliques, des placards partout, une belle table de bois blanc au centre, des tabourets, des bancs. Il serait agréable de venir s'y asseoir chaque matin, après une douche, à peine habillé. Il y aurait sur la table un gros beurrier de grès, des pots de marmelade, du miel, des toasts, des pamplemousses coupées en deux.
Mais qu'est-ce que tu fais debout à 5h?
Pour être à mon travail à 8h, il faut que je me lève. 5h parce que j'ai un train à 6h25 qui arrive à 7h25 à Paris.
Mais...
Ça va?
Mais qui c'est qui t'a dit ça?
La voisine à côté. Elle m'amène, elle travaille aussi à Paris.
Ouais, je vais t'emmener à l'usine.
Non.
Ça, c'est un autre matin, à peine plus tard, au début des années 70, dans un autre livre, Les Paradisiennes, de Brigitte Gros, adapté dans elle court, la banlieue. Nous sommes à Meulan, à quelques 40 kilomètres de Paris. La tendance à l'éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence a commencé dès cette époque-là.
Ah oui, dès les années 60, on voit une partie des ouvriers et des employés quitter les centres-villes à la recherche de logements moins coûteux et d'espaces verts. Et ils sont condamnés donc pour arriver à pouvoir acquérir le pavillon ou l'appartement de leur rêve, à s'éloigner toujours plus des centres-villes, avec évidemment une contrainte, la possession d'une voiture, qui est le seul moyen qu'ils aient d'aller à leur travail chaque jour, ou de faire leurs courses dans les hypermarchés qui se développent à la périphérie des agglomérations.
Alors parlez-nous de la voiture dans ces années des Trois Glorieuses, parce que votre méthode consiste pas seulement à utiliser des chiffres, je l'ai dit, mais à utiliser la thèse sur l'ouvrier de Saint-Denis de X, l'étude de Y sur la voiture chez les ouvriers de Peugeot-Montbéliard, etc.
Alors, en fait, ce qu'on voit bien avec la voiture, c'est qu'il n'y a aucune, il n'y a pas d'uniformisation de la consommation et que les cadres et les ouvriers ont des modes de consommation totalement différents. Les ouvriers achètent des petites voitures populaires quand les cadres achètent des voitures haut de gamme, la DS, l'ID ou la 404 Peugeot ou les voitures étrangères, donc des grosses cylindrées. D'autre part, les cadres achètent plus volontiers des voitures neuves et les ouvriers des voitures d'occasion. Ils n'en font pas le même usage. Les cadres roulent à peu près 15 000 km par an quand les ouvriers en font à peu près 10 000, tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas leur voiture pour aller à leur travail, mais plutôt le vélo, leurs jambes ou le transport en commun. Et puis aussi, les cadres personnalisent leur voiture avec des klaxons spéciaux, des phares, etc. Quand les ouvriers sont deux fois moins nombreux à le faire, et les ouvriers entretiennent leur voiture eux-mêmes dans 80% des cas, alors que les cadres ne sont que 20% à le faire. Donc on voit bien que non seulement ce n'est pas la même voiture, c'est-à-dire que de manière typologique, tout le monde a une voiture. En revanche, dès qu'on regarde les choses de manière plus qualitative, on s'aperçoit que ce n'est pas la même. Et lorsqu'on regarde ensuite ce que font les différents groupes sociaux de la voiture, on voit que même à l'intérieur d'un même groupe social, par exemple les ouvriers, l'usage en est différent. Par exemple, les ouvriers de Peugeot, dans le pays de Montbéliard, font de la voiture un usage très particulier. D'abord, ils peuvent l'acheter dans des conditions tout à fait favorables financièrement, et ils sont nombreux à habiter aux alentours des usines, où on les a d'ailleurs aidés, l'entreprise les a aidés à acquérir un pavillon, et lorsque ils n'habitent pas trop loin, c'est-à-dire à moins de 12 km, ils prennent leur voiture pour aller travailler quand les autres viennent en car. À l'inverse, les ouvriers du Nord, par exemple les anciens pêcheurs qui travaillent chez Usine Nord Dunkerque, eux voient dans la voiture un instrument de libération, et ils l'utilisent comme moyen privilégié pour sortir tous les dimanches.
Donc il n'y a pas un comportement unique par groupe social qui obéirait à un conformisme, de même qu'il n'y a pas uniformisation de la consommation.
Oui, parce que les conditions de vie des différents groupes sociaux varient à la fois dans l'espace et de manière professionnelle.
Ça, c'est la leçon, et elle ne va que s'accentuer quand on parlera de la période postérieure pour les 30 glorieuses.
Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat, ah, j'achèterais des boîtes en plastique, ah, j'achèterais une tante Quechua, ah, aujourd'hui on ne sait jamais, ah, je te ferai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais, peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mémé. Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. La 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 la.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Claude Domas qui tente une grande histoire de la consommation depuis 1840. Ça s'appelle La Révolution matérielle. C'est un gros livre passionnant chez Flammarion. Et on va maintenant en arriver à la période dans laquelle nous sommes. Vous voyez trois caractères saillants, Jean-Claude Domas.
Alors, le premier, incontestablement, c'est le fait que la société salariale qui avait constitué la base de la consommation de masse pendant les Trente Glorieuses se délita. Et là où on avait un continuum de positions qui allait des cadres supérieurs qui entraînaient finalement tout ce monde salarial jusqu'aux salariés les plus modestes, aujourd'hui on constate plutôt une série de divergences. D'un côté, les classes populaires, ouvriers, employés, s'éloignent de plus en plus des couches moyennes. À l'intérieur des couches moyennes, on a une divergence de plus en plus nette entre les cadres supérieurs et les professions intellectuelles, et de l'autre, les professions indépendantes, et à l'intérieur du monde populaire, une coupure de plus en plus profonde, un clivage de plus en plus profond entre les salariés qui ont la chance d'avoir un emploi stable et donc des revenus stables, et les autres. Donc, ça, c'est une, à mon avis, la donnée fondamentale qui permet de comprendre les évolutions de la consommation aujourd'hui. Le deuxième point qui est très important, c'est le fait qu'on a, même si la consommation de masse conserve ses caractéristiques essentielles, on a une tendance à l'individualisation des comportements des consommateurs, ce que les distributeurs ont parfaitement enregistré en diversifiant à la fois de manière considérable leur offre et d'autre part en segmentant leur appareil de distribution avec un grand nombre de formats différents qui s'adressent à des clientèles à la fois professionnelles, en âge ou territoriales, totalement différentes.
Et le troisième point ?
Et je ne sais plus quel était le troisième point auquel vous pensez.
Ah bah c'est dans votre livre, et moi non plus, je ne sais plus dans le livre, je ne sais plus. Individuation et fin de la société salariale. Hein, ce sont les premières leçons qu'on peut imaginer de l'observation du temps d'aujourd'hui. Moi, je vais prendre peut-être trois exemples.
Allez-y.
L'exemple du logement. Alors, la tendance à l'éloignement entre lieu de travail et lieu de logement, elle est longue. Elle a commencé sous les Trente Glorieuses qui, dans le temps présent, est peut-être plus significatif encore, c'est chez les classes favorisées des pratiques autoségrégatives.
Oui, alors sous les Trente Glorieuses, les Trente Glorieuses, on voit déjà ce phénomène se manifester. C'est-à-dire que
on parlait de Meulan tout à l'heure, à 40 kilomètres de Paris.
Mais on voit par exemple une ville nouvelle comme Parly 2 et l'incarnation pendant les Trente Glorieuses du rêve de distinction et de standing des classes moyennes supérieures. Depuis les années 80-85, le phénomène s'est considérablement amplifié puisque on assiste d'une part à un mouvement de sortie des cadres des villes en direction des banlieues chics, par exemple dans l'agglomération parisienne, et à l'intérieur même des villes, des grandes agglomérations, un phénomène de gentrification des quartiers anciennement populaires, comme le 10e, 11e à Paris, ou la Croix-Rousse à Lyon. Et là, on a des groupes sociaux qui se replient sur eux-mêmes, qui vivent complètement à l'écart du reste de la société, alors que, simultanément, on voit les classes populaires essayer de quitter les quartiers les plus stigmatisés, ce qui les amène à aller toujours plus loin en banlieue.
Mais vous êtes parfois coruscant, racontez une pratique auto-ségrégative, inconsciente, enfin involontaire peut-être, Angers 49, oui, avec des cadres de gauche plutôt, veulent autogérer leur résidence.
C'est un projet qui a commencé à la fin des Trente Glorieuses et qui se poursuit et existe toujours aujourd'hui. On a affaire à des gens des classes moyennes, moyennes et supérieures, qui, au nom d'un projet de vivre ensemble, sélectionnent en fait les nouveaux habitants et, au nom de critères idéologiques, rejettent ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Et donc, on a un phénomène de repli ou de clubisation, finalement, qui fait que ce petit groupe vit totalement, tourne le dos au reste du quartier et de la population.
Le deuxième exemple que je vais prendre, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, Jean-Claude Domas, c'est celui de l'alimentation. Avec toujours, comme dans Toulouson aujourd'hui, une symétrie, un effet de miroir ou plutôt de confrontation.
C'est énorme ici, c'est un luxe inouï. Du réfort, de la laitue pour pouvoir faire les petits pois. Il faut un peu de laitue en bas de la casserole et un peu de menthe. Ils seront très goûteux.
On est 7-8, ça commence à être conséquent. On veut que tout soit bien et quand on ne sait pas cuisiner, on mise plus sur les produits que sur ces dents de cuistot.
Un mot, un seul, à tous ceux qui aiment bien manger économiquement. Avec une boîte de pâtes aux œufs frais du Père Lustucru, les pâtes qui ne collent jamais, vous préparerez, madame, 6 plats au lieu de 4, car les pâtes Lustucru ont cette qualité unique de tripler à la cuisson. Quelle économie !
16,6% pour l'INSEE, les dépenses d'alimentation dans le budget des ménages. Mais on va pas continuer à parler d'unité de consommation, on va plutôt parler diversité de la consommation. Les produits de luxe, c'est ce qu'on entendait au début, le produit de base, la pâte qui gonfle.
Oui, là on a une opposition très nette entre les classes moyennes et les classes populaires. Le budget que consacrent les ouvriers et les employés à l'alimentation est supérieur en pourcentage à celui à la part qui consacre les cadres, mais en valeur monétaire, les cadres dépensent évidemment beaucoup plus que les classes populaires. Et il y a non seulement donc une différence monétaire, mais il y a surtout une différence dans la qualité des produits. Du côté des classes populaires, on consomme des produits de base peu coûteux et nourrissants. Hein, conformément à une vieille tradition populaire, il faut que les aliments tiennent au corps. De l'autre côté, au contraire, on a une alimentation qui est beaucoup plus légère et qui correspond d'ailleurs à ce que Bourdieu décrivait dans les années 60 et qui n'a fait que s'amplifier.
C'est-à-dire un processus de distinction.
Un processus de distinction et qu'on voit aujourd'hui se poursuivre avec l'adoption du bio et l'argument donné généralement étant qu'il faudrait être irresponsable aussi bien pour la santé que pour l'environnement à ne pas adopter le bio. Mais par contre, on parle à ce moment-là rarement de prix et le bio est totalement hors de portée des ménages populaires puisque l'association UFC Que Choisir avait calculé que sur une année, le panier de fruits et de légumes bio revenait 79% plus cher qu'un panier équivalent conventionnel. Donc on a là bien une séparation qui est en train de se creuser entre les classes populaires et les classes moyennes supérieures.
Alors vous allez dire que c'est du moralisme, mais à France Inter, on ne peut pas ne pas citer la fondation Nicolas Hulot. Vous avez remarqué qu'on n'entend pas beaucoup Nicolas Hulot d'ailleurs. Ces derniers temps, distinguons l'essentiel du superflu, ce que recommande cette dame dans un documentaire de France Culture. Moins de biens, plus de liens.
Alice, consommatrice repentie.
Non mais c'est
très intéressante de se rendre compte qu'on a besoin de rien, mais que la seconde même on ouvre un catalogue, on a envie de tout ça. C'est vrai que c'était très drôle parce que Milo, il demande pas de jouets. Par contre, avec le catalogue de jouets, à toutes les pages, il en voulait trois qu'il voulait. Et à la fin, il était incapable de dire celui qui lui plaisait le plus. Mais du coup, je me suis dit, bah, voilà comment on crée des consommateurs, on crée des besoins. Il y a un truc qui est important aussi, je pense, c'est l'entourage. On a la chance de vivre avec, entouré de gens qui partagent en grande partie notre mode de vie. Cet après-midi, Milo est invité à un anniversaire et la consigne, c'était interdiction d'acheter un cadeau. Si vous voulez amener un cadeau, c'est soit un jouet que vous avez déjà, soit un jouet fabriqué. Et il y a peu d'endroits quand même où ça se pratique. Donc on a fabriqué un super jeu. Mais je sais que Laurence, elle vit dans un environnement où c'est la course à celui qui achète le plus beau cadeau et c'est beaucoup plus dur pour elle. Elle ne peut pas se permettre, ou en tout cas, c'est pas facile d'amener un truc recyclé ou un truc fabriqué. Ça passerait pas du tout. Et ça mettrait les enfants dans une position délicate aussi. Donc nous, je sais qu'avec les amis proches, on fonctionne souvent comme ça pour les anniversaires. On s'échange des jouets, on fabrique des choses et ça passe.
Oui, mais ça veut dire que moins de biens, ça peut provoquer moins de liens. Parce qu'il ne faut pas faire sortir Milo. Je ne vais pas juger le comportement de cette famille, ce n'est pas mon rôle. Du milieu, là, un peu étroit dans lequel il est.
Oui, ce qu'on voit bien, c'est que la mère de famille dit d'ailleurs, pour pouvoir consommer comme elle le fait, il faut vivre avec ceux qui ont le même mode de consommation. Ah. Donc on a une fragmentation de la société, ici, qui passe selon une ligne de partage relativement simple, qui est l'opposition de l'essentiel et du superflu. La grande question, c'est qu'est-ce que le superflu ? Puisqu'en réalité, et on le sait historiquement, les produits qui sont aujourd'hui nécessaires, qui sont essentiels, ont commencé par être superflus. Et même en prenant un produit très récent comme le téléphone portable, il était un produit de luxe il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, il est un produit absolument banalisé et tout le monde s'en sert. Et je ne pense pas que cette dame dirait qu'elle peut s'en passer.
Mais comment analysez-vous le succès qu'ont les livres du journaliste qui se passe de produits fabriqués à l'étranger, d'une famille dont vous allez nous raconter qu'elle va peut-être faire un livre qui se passe de l'espace superflu.
Alors, c'est
comment elle s'appelle cette famille ?
Cette famille s'est auto-baptisée elle-même, si j'ose dire, la famille Sardine. Et ils sont passés d'un appartement de 250 mètres carrés avec piscine et grand jardin à un appartement de quelques dizaines de mètres carrés pour y faire vivre une petite famille avec deux enfants. Et évidemment, la mère de famille, d'ailleurs, n'a jamais osé dire à ses collègues de travail qu'elle avait déménagé et qu'elle habitait dans une boîte de sardines. L'expérience n'a que la valeur d'expérience et elle ne nous montre pas une voie qui permettrait d'écologiser notre mode de vie. Puisque ce n'est pas une solution qui est durable. Ils font une expérience pour une année, comme la journaliste du Figaro qui a vécu pendant 100 jours sans utiliser sans acheter dans un supermarché.
L'écologisation, alors tout le monde est en principe d'accord pour cette objectif dans la conversation nationale. Est-il facile de se parler, la confrontation entre les gilets jaunes que les automobilistes qui rentrent de week-end peuvent être tentés de considérer comme des ploucs et le reste des Français n'est pas facile. Compartimentation, disiez-vous. Individualisation. C'est une des leçons, Jean-Claude Domas, de votre livre « La révolution matérielle » qui vient de paraître chez Flammarion. L'émission a été réalisée par Étienne Bertin avec à la technique Tiffany Battistel, la préparation Linka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard.